Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous y donnent leur fête. Les lapins nous invitent, souris-moi, courons vite, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin m'a tourné la tête. T'as posé trois baisers sur mes cheveux frisés, et puis sur ma figure toute barbouillée de mûres, pour nous observer des milliers de bêtes s'étaient installées par-dessus nos têtes. Mais un lièvre au passage nous a dit, soyez sage, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin.
Eh bien, je suis très très contente de passer cet après-midi avec vous. Avec vous et avec Grégoire, qui est à mes côtés. Grégoire s'occupe de disques. C'est-à-dire qu'il s'occupe du mien, j'espère, en particulier.
Ben oui, bien sûr. Bonjour, Mireille.
Ça va, Grégoire?
Ben, ça va, aujourd'hui, oui.
Voilà, c'est amusant parce que je sais quelquefois parler avec les élèves du petit conservatoire, avec le public énormément, mais avec les auditeurs loin comme ça, je ne sais pas, il faut que je m'habitue à votre présence. Nous allons passer 2 heures ensemble à écouter des chansons, mais chansons pour moi, rire, ça veut dire vivre. J'espère que je pourrai vous faire partager un petit peu de ma joie d'avoir pu vivre, j'allais dire jusqu'à maintenant. C'est vrai, ça fait un petit bout de temps maintenant. Je ne vais pas dire quand j'ai commencé, parce que ça... Mais comme on vient d'entendre le petit chemin, alors on s'en doute un petit peu. Ce que je pourrais peut-être dire, parce que souvent on me le demande, mais comment est-ce que vous avez commencé? Comment est-ce que ça vous a pris? Ça m'a pris d'une drôle de façon. J'étais à l'Odéon, et j'étais comédienne. Alors, j'avais un camarade décorateur, Claude Dauphin. Son papa ne voulait pas qu'il fasse de théâtre. Alors, il était à ce moment-là décorateur. Et on a joué, c'était très extraordinaire, au Théâtre de l'Odéon, National de l'Odéon, avec un patron extraordinaire qui s'appelait Firmin Gémier. Et il a voulu monter une revue. Alors, pour changer un décor, il a demandé dans la troupe si quelqu'un jouait du piano. Alors, j'ai dit, levez la main si c'est pas trop difficile. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que quand j'avais 3 ans, j'ai commencé à, je ne peux pas dire jouer du piano, mais à tapoter. Il y avait un piano, ma mère jouait bien, ma mère chantait très bien, mon père aimait la musique. Voilà, alors j'ai commencé à jouer à 3 ans, et puis à 4 ans, je jouais mieux, toujours aussi mal, mais enfin quand même mieux. Et puis j'ai joué jusqu'à 14 ans. Et puis à 14 ans, je me suis aperçue que j'avais une petite main, trop petite pour devenir concertiste. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'apprendre la comédie, de jouer. Et puis comme j'étais toujours aussi petite, j'ai demandé à ma sœur de venir avec moi à la sortie de la Comédie Française, parce qu'il y avait, paraît-il, une toute petite comédienne, Berthe Bovy. Et je voulais savoir si j'avais la même taille, alors on a pris 1 centimètre et j'avais dit à ma sœur, tu vas la mesurer pendant que je lui fais signer mon programme. Et quand j'ai su au clin d'œil de ma sœur que nous avions la même taille, j'ai décidé d'être comédienne et je me suis présentée à l'Odéon. Comme ça, j'ai rencontré Claude Dauphin. Alors, j'ai joué, je reviens, mon flashback, je reviens en avant. Est-ce que c'est clair, ce que je raconte?
Absolument, Mireille.
Vous comprenez, Grégoire?
J'attends la suite. Alors, et alors?
Bon, alors j'ai composé, enfin, Jamy a dit, faites 3 minutes de musique pour changer le décor. Faire, ça voulait dire inventer, ça voulait dire composer. Ce que je ne savais pas que je pouvais faire. C'est probablement un lutin qui est venu me pousser. J'ai mis mes mains sur le clavier et puis j'ai inventé une musique. Et puis, ça m'a tellement épouvantée, je me suis demandé quelle maladie je venais d'attraper. Alors, j'ai appelé Claude Dauphin au secours. Je lui ai dit, écoute, c'est une chanson américaine que je viens d'entendre. Qu'en penses-tu ? Il a dit que c'était très joli. Alors, j'ai dit, ah, ben alors c'est de moi. Puis, j'ai fait la même expérience dans ma famille. Et puis, voilà, Claude Dauphin, à ce moment-là, a dit, bon, on ne peut pas rester comme ça une minute de plus. On appelle Jean Noin, mon frère, et je vous présente tous les deux. Il faut que vous fassiez des chansons ensemble. Voilà, alors je raconte toujours cette histoire que Claude nous avait fait une farce. Claude nous avait fait une farce. Il avait dit à Jean Noin que dans le foyer de l'Odéon, il y avait un grand musicien noir qui voulait lui montrer de la musique, ses compositions. Et à moi, il a dit qu'il y avait un grand poète avec une barbe blanche qui m'attendait. Voilà. Alors on s'est trouvés tous les deux dans le foyer de l'Odéon. On se regardait. Mon chien de faïence, et puis j'en aurais à dire, est-ce que vous jouez du piano, mademoiselle ? Oui, monsieur. Montrez-moi ce que vous faites. Je me suis mise au piano et j'ai fredonné et joué. Tam, ta, da, da, tam. Pop, pa, da, da, tam, ta, dam. Pop, pop. Ce que vous venez d'entendre. Voilà, et on est parti, on a fait des chansons et des chansons et des chansons et encore des chansons. Et j'ai eu la chance d'enregistrer, je ne savais pas que je pouvais chanter non plus, enfin chanter. Ah, ça m'amuse parce que je saute du coq à l'âne, Grégoire. Je suis en train de...
Mais je suis.
Je suis en train d'écrire, enfin, j'essaye.
Vous écrivez quoi, vos mémoires ?
J'écris une sorte de livre sur ma vie, oui. Remarquez, quand on a été la femme d'Emmanuel Berle pendant 40 ans, on n'écrit pas.
Oui, mais peut-être qu'il se penche sur votre épaule pour vous regarder écrire.
Alors, je gribouille, j'écris comme je parle.
Oui.
Voilà. Et je voulais dire que j'avais eu beaucoup de chance parce que un des premiers disques, enfin, quand j'ai osé chanter, c'était parce que c'était avec Sablon. Et je pensais que du moment où Jean Sablon voulait bien chanter avec moi, je n'avais pas à m'en faire. C'est ce qui s'est passé. Crac, on coupe.
Sont là pour m'étouffer de larmes, de fleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril. Nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Vous qui passez sans me me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir, j'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard, pour quelle raison ce soir, passez-vous sans me voir, un mot. Je vous aime, c'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu. Thank you. passé sans me voir, sans me donner d'espoir. Adieu, bonsoir.
On l'avait fait à ce moment-là, je crois, Jean-Noël avait inventé la première opérette disquée.
Disco?
Presque. En ce temps-là, c'était on ne peut plus révolutionnaire. Ah oh, oui. Ça s'appelait Le Mois de Vacances.
Oui.
Et c'était l'histoire de trois garçons et d'une fille. Deux garçons héritaient d'un vieux château. Et ils allaient dans ce vieux château, il y avait la partie de bridge, ils jouaient aux parties de bridge, ils rencontraient un jardinier qui boite, il y avait trois gendarmes. Enfin, il y avait.
Je connais tout ça.
Je connaissais tout ça. Et je chantais, j'étais donc la fille à qui il arrivait. On a cherché une fille partout pour chanter avec ces trois garçons. Et on n'en trouvait pas. À la dernière minute, le directeur de la maison Columbia, Jean Bérard, avait dit écoutez, tant pis, faites-le vous. Bon, alors tant pis, j'ai chanté moi, c'est comme ça que ça a commencé. Je saute du coq à l'âne, mais Sacha Guitry avait dit en parlant de moi, elle n'est pas desservie par une grande voix. Voilà. Et je voulais dire tout à l'heure, première chose que je dis dans le livre, là, quand les gens me disent « c'est extraordinaire, votre voix n'a pas changé du tout ». Je pense tout bas, c'est pas étonnant, j'en ai jamais eu.
Alors, je crois que vous êtes un peu sévère avec vous-même, quand même.
Non, mais c'est pas exprès, en fait.
Oui.
C'est comme ça. Donc, j'ai chanté avec les trois garçons le mois de vacances, et que c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Mais, chanson, je vous ai dit tout à fait au début, ça veut dire, pour moi, exister, ça veut dire respirer, musique. Quand j'ai commencé le petit conservatoire, les premiers, tout premier qui était venu se présenter, il y avait Risset Barrier, je crois que c'était le premier élève, et Hugo Frey devait être le second. Hugo Frey n'avait jamais chanté, il était très intimidé, il était même venu avec sa sœur tant il avait peur. Je l'ai pris par la main, et puis j'ai vu quelle personnalité il y avait, enfin, j'ai aidé comme j'ai pu. J'aime bien le réentendre.
Et là, on va l'entendre d'Emilie Emilia, c'est ça?
Laissez-moi vous dire que je ne suis pas content, pourtant je ne suis pas du tout méchant. Mais laissez-moi vous dire que je suis plutôt fâché et qu'il faut vous dire la vérité. Quand j'étais sauvage, je vivais pur et bien sage, mais dans la forêt et sur la plage. Mais sur le bateau, pas sec ou ferré à l'eau, moi j'ai dit adieu Jean-Jacques Rousseau.
Émilie, Emilia, à le Jeannick alors que voilà. Après le temps des colons, celui des institutions, voilà maintenant la pollution. Émilie, Emilia, à le Jeannick alors que voilà. Pas beaucoup d'égalité, amour, fraternité, et parlons ma belle liberté.
Et c'est normal, la sécurité sociale et bien sûr un planning familial. Mais si je sais lire, je n'en ai jamais le temps. Et pourtant je ne suis pas fainéant. Je suis fonctionnaire, je travaille au ministère. Je me demande souvent à quoi je sers. Je n'ai pas de haine, non j'ai plutôt de la peine. Quand je pense à ma terre africaine.
Émilie, Emilia, à le joli cadeau que voilà. Après le temps des colons, celui des institutions, voilà maintenant la pollution. Émilie, Emilia, à le joli tableau que voilà. Pas beaucoup d'égalité, amour, fraternité, et parlons ma belle de liberté.
Ça n'est pas qu'une belle image, en tout
car c'est mieux que l'esclavage. Mais tout a changé, les blancs sont bien possédés, tout le monde est dans le même panier.
Emily, Emilia, a de jolis cadeaux que voilà. Après le temps des colons, celui des institutions, voilà maintenant la pollution. Emily, Emilia, a de jolis cadeaux que voilà. Pas beaucoup d'égalité, amour, fraternité, et parlons ma belle de liberté. Emily, Emilia, le joli résultat que voilà.
Puisque je parlais du petit conservatoire et des jeunes tellement intimidés qu'ils n'osaient pas chanter, mais enfin ils étaient tout de même venus, là, il y a eu comme ça l'apparition de Françoise Hardy dans la classe. Elle était venue auditionner et elle ne pouvait pas ouvrir la bouche.
Ah oui, elle devait être très intimidée.
Mais quand elle est entrée, j'ai eu l'impression qu'une petite lumière, une petite lampe électrique supplémentaire s'était allumée. Alors, là encore, je l'ai pris par la main, j'ai pris sa main et je lui ai dit, pareil, puisque vous êtes venue, il faut essayer. Et puis avec sa petite guitare, elle a commencé, tous les garçons, les filles. Et puis les progrès monstrueux sont venus, la personnalité. Je me souviens, avec les premiers sous qu'elle a gagnés, elle a voulu me voir tout de suite. Et Théodore était sorti ce soir-là. Théodore, c'est Emmanuel Berle. Et Françoise était venue dîner avec moi dans ma cuisine. Et elle voulait que je voie le premier pull-over magnifique qu'elle avait. Bon. Alors, il était très, très chaud. Et je me disais, dans la cuisine, elle va étouffer. J'ai dit, Françoise, pour dîner, enlevez ce pull-over. Il est très, très joli. Je suis très contente. Voilà, je suis fière. Et elle était gênée. Elle me dit, eh ben, je ne peux pas. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'y a rien en dessous ce pull-over. Et je lui dis, fais rien, je vais vous prêter une veste de pyjama de Théodore. Théodore était très grand, avec surtout de très grands bras. Alors, elle va dans la salle de bain, met la veste de pyjama et on dîne ensemble face à face. J'étais en train de regarder cette veste de pyjama sur Françoise Hardy se transformer en draperie, en robe extraordinaire, de chic, de goût parisien. Ça pouvait être Chanel qui le faisait, ça pouvait être Madame Lanvin, ça pouvait être Madame Gray. Elle transforme tout ce qu'elle porte sur elle. Je ne savais pas si elle chanterait, si elle serait mannequin, danseuse, mais qu'elle soit quelque chose, c'était... pas possible qu'il en soit autrement, et qu'elle soit chef de file de sa génération, c'est vrai. Pendant 2-3 ans, elle a cessé de chanter, là, très peu. Et je sortais avec elle, je dîne avec elle depuis 12 ans, au moins une fois par mois. C'est régulier, comme ça. Et je lui disais, mais vous n'êtes plus chef de file de rien du tout, et pourtant vous continuez à être la première dans la rue, c'est pas possible, tout le monde courait après dans les restaurants. Pareil, ça n'a pas changé. Extraordinaire. Et elle, je voulais qu'elle chante une chanson de Michel Berger. Je vous parlerai de Michel Berger tout à l'heure.
Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive. Attendez-moi. Nous allons nous connaître. Préparez votre temps. Pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours, et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi.
C'était Françoise Hardy, votre grande amie, votre fille.
Ah oui.
Fille spirituelle.
Fidèle.
Un message personnel de Michel Berger et d'elle.
C'est à Michel Berger, j'en parlerai tout à l'heure.
Oui, on y reviendra puisqu'on entendra un de ses titres.
Je voulais dire que... Et puis je voudrais qu'on entende ce qu'il m'a fait faire, surtout. Ce qu'il m'a obligée à faire,
oui.
Michel. Mais on en parlera tout à l'heure. Je voulais dire que toutes les chansons, les premières chansons avec Jean-Noël, tous ces mois de vacances, tous ces petits chemins, tous ces vicomtes, personne n'en voulait au début. Naturellement, personne, c'était trop révolutionnaire. Il y avait la musique avec rythme, avec poésie, gay, tout
c'était
ça.
C'était trop moderne.
Ah, ça, non, c'était pire, c'était atroce. Enfin, personne n'en voulait à tel point qu'on a laissé tomber les chansons complètement. Jean-Noël, qui était avocat, a retourné avocat. Son métier d'avocat, et moi j'étais comédienne, voilà. Je jouais une opérette à Paris, au Bouffe Parisien, qui s'appelait Flossie. J'avais pour partenaire Jean Gabin. Alors, j'étais très jeune, et quoique je jouais les grandes évoluées, il y avait une scène au deuxième acte, avec Gabin. Il était mon fiancé dans l'opérette. Et il devait me soulever, j'étais sur un banc dans un jardin, debout. Alors il m'attrapait, ainsi était préparée la mise en scène, il m'attrapait, prenait dans ses bras et devait m'embrasser.
C'était
un long baiser.
Ça.
C'était formidable, mais il y avait un cactus. C'est que j'avais encore jamais embrassé un garçon. Alors c'était un drame. Et je me disais, s'il m'embrasse, d'après ce que j'ai lu dans les livres, ça risque de faire un certain effet. Si à ce moment-là, l'orchestre démarre et je dois chanter, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je n'ai pas dormi pendant 48 heures, puis finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit à Jean Gabin, ben voilà, je ne peux pas. Alors ça le faisait rire et je lui ai dit surtout ne le fais pas, je t'en supplie, ne le fais pas en scène, l'orchestre va jouer, je ne vais pas pouvoir chanter, c'est atroce. Et on a joué cette opérette presque un an. Je ne vous dirai pas comment ça s'est terminé. Et puis, le théâtre fermant le mois de juillet et août, j'avais pas de sous. J'ai décidé d'aller passer une audition à Londres, où je savais que je serais reçue. Et j'avais une copine. Et à Londres, j'ai fait tous les cabarets. On prenait des étrangers pour l'été. Et j'ai trouvé un cabaret qui a bien voulu de moi pendant le mois de juillet, mois d'août. Le cabaret s'appelait le Café de Paris. Et le troisième jour, il y avait dans la salle, ce que je ne savais pas à ce moment-là, Noël Coward, qui était le Sacha Guitry anglais, qui était adoré de toute l'Angleterre et tous les succès. Il avait une opérette qui se jouait déjà depuis plus de 3 ans. Alors c'était drôle. Je suis convoquée au théâtre pour une audition. Et je me dis, pourquoi est-ce que j'irai auditionner puisque je dois rentrer à Paris jouer avec Jean Gabin. Flossie, non, c'est pas la peine. Je refuse d'aller à l'audition et j'ai ma copine me dit « Mais enfin, c'est ridicule, convoqué par Noël Coward, tu ne te déranges pas, mais tu ne te rends pas compte. » Enfin, une telle engueulade. Bon, je vais à cette audition au théâtre où se jouait cette opérette depuis 3 ans que j'avais vue la veille. Et j'avais dit à mon ami « Mais c'est merveilleux jouer le rôle, un tel rôle. Et quand on est jeune comédienne, on peut jouer ça et mourir après, on a fait ce qu'on devait faire au théâtre. » Alors, je me présente, il y avait 400 filles à l'audition. Et on dit mon nom, ça se passait par ordre alphabétique. Quand arrive mon nom, je vais sur la scène. Et on me dit, faites ce que vous faites au Café de Paris tous les soirs. Et bêtement, je réponds, si vous l'avez vu, c'est pas peine que je recommence. C'est-à-dire que si un élève me parlait comme ça, me disait comme ça, je crois que je l'aurais étranglé. J'étais sotte. Alors, je fais ce qu'on m'en glisse, on fait venir sur le piano un énorme piano à queue vient sur la scène, je refais le numéro que je fais tous les soirs au Casino de Paris, on arrête toutes les auditions, et Noël Coward, je sais après, me fait venir descendre de la scène à l'orchestre, me regarde dans les yeux et me dit « Vous savez que chaque artiste a une roue au-dessus de la tête, une roue de loterie, et que vous savez, dans les loteries, on gagne 1 kilo de sucre, 1 canard, bon. La roue vient de s'arrêter sur vous, sur un chiffre. Vous allez ce soir voir mon opérette. » Je lui dis, c'est pas la peine, monsieur, je l'ai vu hier soir. Bon, qu'est-ce que vous pensez du rôle de Agnes St. Hill, s'appelait la fille. J'ai dit, monsieur, jouer ce rôle-là et mourir, c'est parfait après. Il a dit, c'est pas la peine de mourir. Vous allez créer ce rôle dans mon opérette à New York dans 3 semaines. Alors, je suis tombée dans les pommes. Et puis, on m'a tapé sur la figure. 3 semaines après, je crée l'opérette à New York, au Ziegfeld Theatre. C'est-à-dire que, comme conte de fées, quand on a, je ne sais pas, je devais avoir 18 ans, 18 ou 19 ans, c'est quand même assez extraordinaire.
C'est extraordinaire, c'est un rêve.
Oui, c'est un rêve. Enfin, voilà. Et ça, c'était parce que les chansons ne marchaient pas à Paris. Alors, j'avais accepté ça. J'ai fait quelque chose d'assez phénoménal à cette époque. Il n'y avait pas les avions comme maintenant. Je répétais à Londres et je jouais jusqu'à ce qu'on ait trouvé une doublure le soir à Paris.
Vous étiez l'après-midi à Londres et le soir à Paris, tous les jours.
Tous les jours. Tous les jours, je jouais le soir, je répétais à Londres. J'ai fait ça pendant 3 semaines. Après, j'ai répété sur le bateau et poum, sur la scène. Alors, en arrivant en Amérique, j'étais éblouie, émerveillée. Je me suis dit, tiens, ils font la même musique que moi. Et je venais d'entendre Gershwin. Alors, Gershwin, ça c'était... Oh. J'étais éblouie, encore une fois, émerveillée. J'avais un amoureux en tout bien, tout honneur, qui venait tous les soirs à l'opérette à Paris.
Un fan.
Inconditionnel. Voilà, t'y pas que je le retrouve à New York. Le premier soir, la première. Et à New York, il venait tous les soirs. Un soir, il vient me chercher après, et puis je ne voulais pas sortir avec lui. Il me dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous acceptiez... Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous accepter de dîner avec moi un soir? On réfléchit et je lui dis, vous m'achetez Gershwin pour la soirée. Et il l'a fait.
Thank you.
non, ça c'était Le Séducteur avec Gershwin. Mais je voudrais savoir la fin de l'histoire.
Ah, ça s'est terminé en tout bien, tout honneur, Monsieur Grégoire.
Bon, très bien.
J'espère que vous êtes toujours à l'écoute de Radio Andorre, avec moi, Mireille.
Émission Carte Blanche.
C'est ça, merci Grégoire. Moi, j'avais commencé les émissions de radio, puisque des questions de radio, au Poste Parisien, avec une émission qui s'appelait Les Amis de Mireille. C'était une émission que faisait Jean Noin, et il avait eu la bonne idée d'inviter 12 personnes à déjeuner en face du Poste Parisien, c'est-à-dire au Fouquet's. Et puis alors, on les faisait énormément manger, boire. Et ces 12 personnes étaient en fait des personnalités. Par exemple, il y avait Paul Valéry, Simenon, Mistinguette, Maurice Vallier, le professeur Picard. Il y avait toujours
des dîners, des déjeuners bien parisiens.
Ah, c'était extraordinaire. Ah, ouais. Tout le monde venait. Tout le monde. Je sais que j'avais été très impressionnée par Paul Valéry parce que je lui avais demandé... comment il écrivait, enfin j'étais sotte aussi un peu, c'était un peu idiot, mais il m'avait dit une chose que je n'ai jamais oubliée, il m'a dit, vous savez, quand j'écris un vers, il me faut un nom. Ben, ça m'a laissé rêveuse. Et alors Jean Noin trouvait toujours je ne parlais pas assez, que je ne disais pas assez de choses aux invités pour les distraire. Un jour j'étais assise, j'avais à ma droite, je crois que ça s'appelle le capitaine des pompiers, enfin, le chef de tous les pompiers de Paris ou le colonel. Et Jean Noël m'avait donné un coup de pied sous la table parce que je n'avais pas assez parlé à ce... Alors, bêtement, je me tourne vers lui et je lui dis « Alors, qu'est-ce que vous nous préparez de beau ?» Voilà. Après, je n'ai plus besoin tellement de... de parler. Puisque ça vous a fait sourire, Grégoire,
oui.
Quelqu'un qui me fait, moi, rire vraiment, c'est De Vos.
Oh, le grand De Vos.
Le grand De Vos. De Vos, vous savez, voulait chanter. C'est comme ça que je l'ai rencontré la première fois. Il était venu chanter, il voulait chanter d'ailleurs, j'avais bien de la chance, une de mes chansons. J'en avais fait les paroles. Vous savez que je fais toujours mes musiques de toutes les chansons. Ils sont toujours de moi. Bon, c'est dit, c'est casé, ça y est. Alors... De Vos était venu chez l'éditeur Breton, et moi j'étais derrière le piano, et il avait fait une sorte d'audition, enfin il voulait chanter, « Quand le facteur part en tournée, on l'entend toute la matinée fredonner, parce que ça lui donne du courage. » Bon, alors ça c'était De Vos, heureusement, il n'a pas continué cette vocation, heureusement pour nous.
S'il y a des gens qui se prennent pour des valises, moi j'ai mon chien qui se prend pour quelqu'un. Ah, depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Hein. Chien, il se prend pour un être humain. Et je n'arrive pas à l'en dissuader. Oh, c'est pas que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est. Hein. Mais que lui se prenne pour quelqu'un, hein, c'est un peu abusif. Enfin, quoi, est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique... Quoique, dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais avec mon chien, c'est que je tenais en laisse, et je rencontre une dame avec sa petite fille. Et j'entends la dame qui dit à sa petite fille, « Va, va, va caresser le chien. » Et la petite fille est venue me caresser la main. Alors moi, je lui faisais signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien, c'était l'autre. Mais la petite fille a continué à me caresser gentiment la main. Et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant. Et mon chien, lui, qui n'aura jamais eu l'occasion de se taire, a cru bon d'ajouter, il ne lui manque que la parole. Hein? Bon. Ça vous étonne tout de même, hein? Ben moi, ce qui m'a le plus surpris, d'ailleurs, c'est pas tellement que ces dames m'aient pris pour un chien. Hein? Tout le monde peut se tromper. Mais qu'elle n'ait pas été autrement surprise d'entendre mon chien parler. Alors ça, les gens ne s'étonnent plus de rien. Ben, la première fois que j'ai entendu mon chien parler, j'aime mieux vous dire que j'ai été surpris. Hein? C'était un soir. après dîner. J'étais allongé sur le tapis. Je somnolais. J'étais pas très bon poil. Mon chien était assis dans mon fauteuil. Il regardait la télé. Il n'était pas dans son assiette non plus. Je le sentais. Ah, j'ai un flair terrible, vous savez. À force de vivre avec mon chien, le chien, je le sens. Je le sens. Subitement, mon chien me dit à brûle pour point. On pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. Ah, j'ai pas fait attention tout de suite. J'ai dit, mais c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Il me dit, oui, jusqu'à présent, je n'ai rien dit, mais je n'en pense pas moins. Et j'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ta soupe n'est pas bonne. Eh bien, je lui dis, t'as pâté non plus, moi. Subitement, j'ai réalisé que je parlais à mon chien. Oh, j'ai dit, tiens, tu n'es qu'une bête, je ne veux pas discuter avec toi. Enfin, quoi, un chien qui parle. Est-ce que j'aboie, moi? Quoique. Dernièrement, mon chien était sorti sans me prévenir. Il était allé aux puces. Moi, j'étais resté pour garder la maison. Tout d'un coup, j'entends sonner. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Au lieu d'aller ouvrir, je me suis mis à aboyer, oui, madame. Mais aboyer. Alors, le drame, c'est que mon chien qui était derrière la porte a tout entendu. Alors, depuis, je n'en suis plus le maître. Avant, quand je lui lançais une pierre, il la rapportait. Maintenant, non seulement il la rapporte plus, mais c'est lui qui la lance. Et si je ne la rapporte pas dans les délais, qu'est-ce que j'entends? Je suis devenu sa bête noire. Mon chien, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas là, parce qu'il vous aurait raconté tout ça mieux que moi. Ben oui, parce que moi, quand je raconte ça, les gens ne me croient pas. Mais quand c'est mon chien, ah oui, ça, les gens croient n'importe qui.
Voilà, c'était irrésistible, non?
Oui.
Je lui avais demandé à De Vos, je m'étais trouvé, je ne sais plus où, à côté de lui, mais qu'est-ce qu'il faisait quand on inventait, quel est ce tri que l'on fait tout seul? Parce que, je ne sais pas, moi j'improvise, ça peut durer des heures au piano. Qu'est-ce que c'est que ce rejet? Comment se fait-il que pendant une ou deux heures de piano, je choisisse un petit bout? Et je lui posais la même question pour les sketchs. Et puis il s'est mis à me fixer et il m'a expliqué comment lui-même faisait ses sketchs et faisait le rejet, faisait son tri lui-même. Sûrement le traître était en train d'essayer un sketch sur moi et ça se voyait dans ses yeux immédiatement.
Je crois qu'il fait ça avec tout le monde d'ailleurs. Je crois qu'il fait un sketch sans arrêt.
Ah oui, c'est extraordinaire. Vous savez ce qui me réconforte le plus, vous ne me l'avez pas demandé, mais je vais vous le dire, Grégoire, ce sont les jeunes avec lesquels je vis depuis 25 ans.
Le petit conservatoire.
Petit conservatoire, et entre dans sa 25e année. Et je pensais à Souchon, là. Alors, ce Souchon-là...
Il était votre élève ?
Ben, il était venu auditionner, et il est resté un long moment. C'est Jean-Noël Dupré qui m'a rappelé ça. Et il était tellement intimidé qu'il chantait avec deux jumelles. Alors moi, naturellement, je ne regardais que les deux jumelles. Elles étaient ravissantes. Et il chantait les chansons des jumelles. De temps en temps, il ajoutait une petite phrase. Bah, il a fait un bon chemin, ce Souchon-là.
Plutôt.
Petit enfant, pas bonne vie. C'est fou. petit garçon le ballon rond, qui rebondit trois bonds, mais c'est qu'une boule, qui va pas très loin, qui roule, qui fascine les foules, alors tape dedans, ça fera un peu passer le temps. Mais moi je voulais qu'il s'envole, qu'il reste pas seulement fou. Violon vieux, plus magique, tous des modes, c'est tragique. Adieu ma grand-mère zizique, mais c'était pas pour déplaire. Je vous jure que j'aimais ma grand-mère. Si j'ai caché des micros dans mon cerveau, c'est que j'ai le dégoût. Le dégoût de quoi, je sais pas, mais le dégoût. Tout petit déjà, c'est fou comme tout fou des dégoûts. C'est que j'ai le dégoût. Le dégoût de quoi, je sais pas, mais le dégoût. C'est fou comme tout fou tel dégoût. C'est que je le dégoût. Il est autre, je sais pas, mais le dégoût.
Donc c'était Alain Souchon dans Le Dégoût.
Je voudrais maintenant écouter Brassens. Et je pense que tous les auditeurs de...
Pourquoi Brassens?
Ah ben je vais vous le dire. Mais laissez-moi dire que j'espère que tous les auditeurs de Radio Andorre pensent comme moi. D'abord, Brassens, moi, il m'émerveille, il connaît toutes mes chansons, alors vous pensez. Toutes par cœur, même celles que j'ai oubliées.
Encore un fan.
Et c'est à cause de lui que j'ai osé, après, je parlais de Michel Berger à propos du disque, mais j'ai osé remonter sur une scène à cause de Brassens, à Bobino. C'est lui qui a voulu que je rechante. Alors je voudrais, enfin, on est tous d'accord.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout. Et même pire, une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice, quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Suzanne, vous n'avez pas remué le sucre dans le thé là. C'est amer. Le 2, c'est une boulangerie. Le 6, c'est un brocanteur. Le 12, c'est une charcuterie. Le 16, un marchand de couleurs. Mais je me fous de la boulangère, je me fous du vieux brocanteur. Le charcutier m'indiffère, je suis froide devant le marchand de couleurs. Il n'y a que le 27 qui m'intéresse. Pour mon cœur, c'est la seule adresse. C'est là qu'habite Victor, ma faiblesse. Du trottoir, je peux voir sécher ses mouchoirs. Que cette maison-là m'est chère, que j'aime sa porte cochère. C'est bête, je sens mon cœur qui s'arrête net devant le numéro 27. Je sais qu'au rez-de-chaussée habite un petit bossu, un professeur de lycée loge à l'étage au-dessus. Au troisième, c'est un notaire, à droite, un vieux général, à gauche, un vétérinaire. Mais tout ça m'est bien égal. Il n'y a que le septième qui m'intéresse. Il n'y a qu'au septième qui a de l'ivresse. C'est là qu'habite Victor, ma faiblesse. Du bas de l'escalier, je vois son palier. Je grimpe en courant quatre à quatre. Victor m'attend prêt à s'ébattre. Mon âme sœur n'a pas d'ascenseur. Je suis en âge quand j'arrive au septième étage. Il a dans sa petite chambrette des tas d'objets de valeur. Le portrait de Marie-Antoinette et des femmes nues en couleur. Et puis de fauteuils rustiques, un poisson dans un bocal, un presse-papier à musique, et puis le sabre d'un amiral. Mais y'a que le lit qui m'intéresse, c'est un lit des galeries Barbès. C'est là que dort Victor, ma faiblesse. La luxure insensée me laisse glacer. Y'a qu'une maison qui m'intéresse. Y'a qu'un étage, y'a l'ivresse. Y'a qu'un lit dans Paris, mon ami m'attend là-bas, au 27 rue des Acacias.
Alors ça, c'était Mireille en public, à Bobino, c'est ça?
Oui, grâce à Brassens.
Oui, c'est ça, je crois que Brassens, il avait fait 4 mois à Bobino, je crois.
Oui.
Il y a un an maintenant, deux ans, je ne sais plus. Et puis Jean-Claude Dozon, le directeur de Bobineau, lui avait demandé de prolonger.
D'un mois.
Alors il n'avait pas très envie, il était un peu fatigué. Et puis il a dit, bon bah d'accord, je veux bien prolonger, mais une condition. Et puis c'est comme ça, je veux que Mireille vienne chanter avec moi.
C'est vrai, c'est à lui que je le dois. Grégoire, il y a déjà une heure que nous sommes ensemble.
Mais oui.
Oh, est-ce que le temps passe vite à Radio Andorre. À tout de suite.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. Oh, que la vie est douce, douce. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Il ne faut pas que je vous cache que j'eus toujours la sainte horreur des vaches. Dans ma famille, c'est un tort. Hélas, le métier de toréador n'a jamais été notre fort. J'aimerais mieux qu'on m'injurie, qu'on me pende ou qu'on m'expatrie, plutôt que de toucher un pis de ma vie. Je suis ainsi, tant pis, et c'est dommage. Le fils de la fermière est charmant et on a le même âge. Par bonheur pour les amoureux, il est au grand air d'autres jeux, des jeux que j'aime davantage, des jeux que j'aime davantage. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. Oh, que la vie est douce, douce. Oh, que la vie est douce, douce. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin.
Rebonjour, nous sommes à nouveau ensemble pour une heure. Moi, je suis très contente d'être à Radio Andorre et vous, j'espère que vous êtes à l'écoute. Et nous allons passer aussi agréablement que possible la suite de cette carte blanche.
Mireille, si on parlait de Michel Berger, parce que c'est quand même lui
qui
vous a...
Ah ben ça, c'est facile, hein, oui. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Pendant 2 ans, j'ai cessé le petit conservatoire de la chanson. Et à ce moment-là, un des jeunes musiciens que j'admire le plus, Michel Berger, est venu me trouver et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Puisque vous n'avez pas de petit conservatoire, remettez-vous au piano, refaites des chansons, vous n'en faites plus, c'est ridicule. » En somme, il m'a poussé. Et il a ajouté « Si vous refaites 10 chansons nouvelles, moi, je vous les ferai enregistrer. » J'ai regardé ce jeune musicien, éberlué, et il m'a poussé, vraiment. Il m'a présenté Philippe Chatillez, un jeune parolier. Moi, j'ai pris les jeunes paroliers du petit conservatoire, et grâce à lui, j'ai osé à nouveau enregistrer. Disque que vous trouvez, c'est tous les disquaires. Et je voudrais que vous écoutiez Michel Berger. Lui-même.
«
savoir qui je suis pour me comprendre. Il faudrait connaître ma vie et pour l'apprendre, devenir mon ami pour me comprendre. Il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre, perdu dans le hasard. Je l'ai connue toute petite, dans les bras de sa grand-maman. Dommage, dommage, j'aimais tellement son visage. Pour me comprendre, il faudrait savoir le décor de mon enfance, le souffle de mon frère qui dort, la résonance de mes premiers accords. Il faudrait connaître mes nuits, mes rêves d'amour, et puis mes longues insomnies. Quand vient le jour, la peur d'affronter la vie, il y a peut-être quelque part un bonheur. J'aurais eu ma part. Dommage, dommage, j'aimais tant le paysage. Pour me comprendre, il faudrait la connaître mieux que je ne pourrais. Il faudrait l'aimer plus. Et je vous dirai que je n'y crois vraiment pas. Pour me comprendre, il faudrait avoir rencontré l'amour, le vrai. Vous comprenez le grand amour et savoir qu'après, à quoi sert de vivre encore.
C'est Michel Berger pour me comprendre. Une chanson qu'il aime bien, je crois, parce qu'il s'est défini beaucoup dans cette chanson.
Oui.
Moi, je voudrais raconter une histoire à propos du disque que vous avez fait, suivant les conseils de Michel Berger. Parce que, un jour, vous avez été prévenu, par moi d'ailleurs, que vous aviez une critique dans le journal Playboy. Et je vous ai dit, descendez vite l'acheter. Alors, vous êtes descendu au kiosque le plus proche. Vous allez voir la dame qui tient le kiosque et vous avez dit, je voudrais Playboy. Alors, la dame vous a regardé d'un drôle d'œil, je crois. Elle vous a trouvé un peu, tiens, Mireille qui se met à acheter Playboy, bizarre. Et alors, pour vous justifier, parce que vous voyez que la dame était quand même un peu étonnée, vous lui dites, mais vous savez, je suis dedans, hein. Tête de la dame.
Et ma tête, beaucoup. Quand j'ai regardé le journal, après, je cherchais la musique d'un film, pour un film qui s'appelait Koussi Koussa. Jean-Noël m'avait donné ses paroles et ça ne me plaisait pas du tout. Alors, je lui ai dit, non, ça ne va pas du tout. Donnez-moi un autre thème, d'autres paroles. Dites-moi n'importe quoi, cette musique. Koussi Koussa, ça ne m'inspire pas. Alors, il m'a dit, quand une marquise rencontre une autre marquise, qu'est-ce qu'elles se disent, des histoires de marquises, ça vous plaît? Ah oui, ça m'amuse plus. Et j'ai commencé, quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qu'il se raconte des histoires de vicomte? Et je continuais comme ça, quand un tramway, voilà. J'ai donc trouvé ma musique, et ceci se passait au Tréas, près de Cannes. Et l'amie qui m'hébergeait m'entendait toute la journée chercher la musique de ce film. Elle connaissait Maurice Chevalier, elle était invitée à un cocktail. Et machinalement, elle fredonne ta 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 pa 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 ta ta dram bam bam bam. Bon, et Maurice Chevalier lui dit, qu'est-ce que vous chantez? Il dit, je sais pas, c'est Mireille habite chez moi et j'entends ça toute la journée. Je veux voir Mireille demain. Alors moi, j'étais épouvantée, Maurice Chevalier, pour un jeune auteur, enfin, j'étais émerveillée. Je vais chez Maurice Chevalier qui me dit « Jouez-moi la chanson du Vicomte ». Je n'ai pas de chanson de Vicomte. Mais si, vous avez une chanson qui commence par « Quand un Vicomte rencontre un homme ». Mais non, c'est un monstre. Monstre, c'est un jargon. Quand on fait des chansons, on appelle monstre les paroles qui ne serviront pas. Et Maurice Chevalier m'oblige à me mettre au piano. Je dis ces paroles stupides. Quand un Vicomte rencontre un autre Vicomte, j'en avais les larmes aux yeux. Mais non, on va vous faire une très jolie chanson. Non, c'est celle-là que je chanterai pour ma rentrée au Casino de Paris. Ainsi fut fait.
Raconte des histoires de vicomte. Ah, quand une marquise rencontre une autre marquise, qu'est-ce qu'elles se disent? Des histoires de marquise. Ah, quand un cul-de-chat rencontre un autre cul-de-chat, qu'est-ce qu'ils débattent? Des histoires de cul-de-chat. Chacun sur terre se fout des petites misères de son voisin du dessous. Nos petites affaires à nous, nos petites affaires, c'est ce qui passe avant tout. Malgré tout ce qu'on raconte partout, qu'est-ce qui compte en fin de compte? Ce qui compte surtout, c'est nous, chacun sur terre, se fout des petites misères de son voisin du dessous. Quand une bigote rencontre une autre bigote, qu'est-ce qu'elle chuchote? Des histoires de bigotes. Quand un gendarme rencontre un autre gendarme, qu'est-ce qu'il écharpe? Des histoires de gendarme. Quand une vieille tante rencontre une autre vieille tante, qu'est-ce qu'il est tante? Des histoires de prout-prout. Chacun sur terre se fout des petites misères de son voisin du dessous. Nos petites affaires à nous, nos petites affaires, c'est ce qui passe avant tout. Malgré tout ce qu'on raconte partout, qu'est-ce qui compte en fin de compte? Ce qui compte surtout, c'est nous, chacun sur terre, se fout des petites misères de son voisin du dessous. Chacun sur terre se fout des petites misères. Nos petites affaires à nous, nos petites affaires. Bah voyons, tu penses avant tout, malgré tout ce qu'on raconte partout, qu'est-ce qui compte? En fin de compte, voyons, nous, chacun sur terre. Laissez-moi me marrer tout de même.
C'est extraordinaire, la première du Casino de Paris. Oh là 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 là, j'étais dans la salle dans un état. Bon, on passe au petit conservatoire.
Oui, parlez-moi d'un élève.
Ben, il y a un élève, vous savez, quelquefois on me demande combien de temps faut-il. Qu'est-ce que ça veut dire pour combien de temps faut-il? Quelquefois il faut 6 mois, 1 an, 3 ans, 6 ans. Il y a quelquefois des auteurs comme Claude Lemel. Il fait tous les succès maintenant, vous savez, les tubes, comme on dit, de Dassin, de Mireille Mathieu, comme Level, la servante, comment ça s'appelle, j'allais dire la servante du château, la bonne du curé. Mmh. Bon, enfin, c'est tout des auteurs, des musiciens. Voilà, alors Hervé Christiani, je crois qu'il a sa chance maintenant. Il aura attendu
un moment.
Je crois
que c'est le moment, là.
Oui.
Il est en train de...
C'est arrivé.
Ouais, oui. Ça bouge pour lui.
Il est très intelligent.
Elle avait de belles manières, une distinction naturelle. Elle connaissait l'art de plaire, d'être belle. Elle lisait du La Bruyère, assise au bord de la rivière. Elle aimait la mélodie de l'eau claire. certaine envergure, femme de cœur, de devoir et d'honneur. De propos fort agréables, elle entretenait redoutable, une équivoque insaisissable dans son charme. Elle est devenue chanteuse de rock'n'roll en jean, dans une vie parfumée aux fleurs de cocaïne qui illumine sa déprime. Elle avait de l'élégance dans sa manière d'avoir de la chance quand elle jouait au Mahjong le dimanche. Quand elle marchait sous son ombrelle, c'était une vraie demoiselle, toujours gantée de dentelle irréelle. Mais elle s'est compromise un beau jour dans le showbiz.
C'était donc Les Belles Manières par Hervé Christiani. C'est un de vos élèves qui est en train de démarrer.
Il vient toujours,
ouais.
Tout le temps. Il a fait les chœurs. Vous savez, je leur demande toujours aux paroliers de faire des adaptations pour les élèves. C'est amusant d'ailleurs parce que je n'ai qu'à rester bien tranquille chez moi et je sais tout ce qui se passe à Paris. Il y en a toujours un qui vient me dire « Madame, il faut absolument que vous veniez écouter un grand noir qui joue de la flûte électrique. » Ou alors « Madame, il y a un garçon extraordinaire, vous allez aimer, vous allez adorer, il chante dans un cabaret, il vient d'arriver, je crois qu'il est canadien, il s'appelle Lewis Furet. » Et ils m'ont traîné là et je les ai beaucoup remerciés de ça.
Ah oui.
This is my magic circle.
Alors donc, c'était Lewis Furey dans Hustler Tango, sans Carole Laure.
Très bien, Grégoire. Grégoire, vous êtes toujours avec moi, vous savez.
Miroska.
Miroska, à l'écoute de Radio Andorre. Hein.
Oui, carte blanche.
Ah bah oui, mais pas
carte blanche là. À Mireille.
Les chansons ont toujours un destin. Je pense qu'il y a un moment, une comète qui réunit la chanson à l'interprète. On avait fait une chanson, Jean-Noël m'avait apporté des paroles, c'était l'histoire d'une jeune fille qui se balançait dans une fête foraine. Alors, il m'avait dit pour la première fois, n'oubliez pas, il faut qu'elle se balance à trois temps. Jamais il ne m'avait fait une telle réflexion, jamais il ne m'avait dit, faut que ça soit ça. Alors, j'ai réfléchi, puis je me disais, bon, on se balance pas, on n'est pas sur une balançoire. Joum, bam, 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 c'est pas une valse. Non, ça se passe comme ça, en l'air, en bas, en l'air, en bas. Bon, deux temps. J'ai fait la musique. Et puis, j'ai changé les paroles. Je lui ai demandé de me changer un petit peu les paroles. C'est devenu une demoiselle sur une balançoire. Et je voulais absolument, à ce moment-là, que ça soit Salvador qui la chante. Henri Salvador. Alors, bon, Henri Salvador m'a dit, oh non, non, la chanson, elle est pas bien. Bon, alors, boum. Ça m'a agacé, je l'ai montré à mon éditeur, qui était Raoul Breton, qui est l'éditeur de Coucher dans le foin, du Vicomte, enfin de toutes les chansons. Et il m'a dit une chose très dure pour un auteur, il m'a dit « quand on fait un navet comme ça, on ne le montre pas
oh. ».
Alors ça m'a effondré. J'étais pleurée dans le café, en bas, rue de Rossini. Et puis je me suis dit « ça doit être comme le cheval et la bicyclette. Quand on tombe, vite il faut remonter ». Je suis précipitée avec ma chanson chez un autre éditeur et je lui ai dit, monsieur, il y a longtemps que vous me demandez une chanson, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Je ne peux pas vous dire ni le titre ni le rien, il faut me l'acheter. Comment je vais l'acheter? Mais je voudrais vous entendre, qu'est-ce que c'est? Non, 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 je ne peux pas, c'est un billet de loterie. Vous achetez, vous achetez pas. Alors, il a appelé son directeur, ils étaient le genre, Mireille est un peu zinzin, qu'est-ce qu'elle a? Elle veut nous vendre une chanson qu'elle ne veut pas montrer. Le directeur dit, faites-le. Voilà, le billet de loterie. Puis après, je me suis dit, bon, alors ça, Salvador n'a pas voulu. Nanana, l'éditeur trouve ça très mauvais. Sablon. Je montre la chanson à Jean Sablon qui me dit, ça ne va pas du tout, c'est pas pour moi. Très bien. Restaient les garçons de la rue qui étaient dans une tournée avec Jean Noin. Avec eux, c'était plus commode, je les oblige. Alors, très, très gentiment, bon, bah, si elle veut absolument, ils chantent la chanson, ça ne marche pas du tout. Horrible. Bon. Je vais moi-même chanter à Genève. Je me suis dit, il faut que je l'essaye. Alors, bien encadré, je mets ça entre couché dans le foin et les trois gendarmes. J'étais sûre qu'il ne m'arriverait pas trop de désastres. Et ça tient le coup. Je rentre et j'entends à la radio Yves Montand chanter une autre chanson. Et je me dis, flûte, j'ai loupé le coche. Je vais montrer ma chanson à Yves Montand. J'ai montré la chanson à Yves Montand qui me dit, mais ça va pas du tout, encore une fois. Tu es folle, moi je n'ai jamais chanté de chanson comique. Qu'est-ce que ça veut dire? La fille s'en va en l'air, je vais avoir l'air de quoi dans mes fans, toutes les demoiselles. Et je lui dis, tu n'as jamais chanté de chanson comique, essaye. Non. Et puis après il me dit, laisse-la. Et quelques jours après... J'essaye de le voir et on me dit « Monsieur Montand est dans son bain, Monsieur Montand n'est pas visible, Monsieur Montand tourne. » J'ai pris un taxi, je me suis plantée devant la maison de Montand, je ne sais pas, une bonne après-midi entière jusqu'à ce qu'il entre ou qu'il sorte. J'ai trouvé, je lui ai dit « La chanson est la même, j'ai vu dans tes yeux que ça irait, qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a dit « C'est pas gentil, tu ne m'as pas dit que Jean Sablon, que Salvador, que les garçons de la rue, tout le monde avait chanté avant moi. » Ah, alors je dis « Bon, ben, si c'est ça qui te gêne, si tu as peur de... » Salvador, du Sablon, tout ça, d'accord, tu chantes pas. Alors, il m'a pris la chanson quand même, il m'a dit, on verra. Et puis, trois semaines après, il me téléphonait de Montpellier, il avait essayé la chanson, et il chronométrait les applaudissements, il m'avait dit, bon, ben, ça a eu un peu plus de 3 secondes d'applaudissements qu'à Paris. Voilà.
Une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête. Un dimanche, elle était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. Le marchand lui criait, voulez-vous vous asseoir? Descendez, descendez, c'est assez pour ce soir. Si vous restez debout, vous allez vous casser le cou. Mais la
demoiselle sur la balançoire riait, riait et montait de plus belle. Elle était belle et l'on pouvait croire qu'elle s'envolait pour toujours dans le ciel. Mais c'était défendu, elle est redescendue. Quand elle est descendue, moi j'étais tout ému. Je lui ai dit, mademoiselle, j'ai cru que vous aviez des ailes. On est allé au tir, au chevaux de bois, au nougat, au cirque à la femme tronc. Mais ça ne l'amusait pas. Elle m'a dit, je vous remercie, je préfère retourner là-bas. Et voilà qu'elle m'a laissé pour aller se balancer. Une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Elle était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. Quand elle est descendue, toujours aussi émue, je lui ai proposé, voulez-vous m'épouser? À la mairie du 12e, j'ai dit oui, elle de même. Je l'ai prise par le nez, par le cou, par le bras, je l'avais tout contre moi. Mais ça ne l'amusait pas. Elle m'a dit, je vous remercie, je préfère retourner là-bas. Et voilà qu'elle m'a laissé pour aller se balancer. Au revoir. Demoiselle.
Quand on est auteur, c'est vraiment une chance exceptionnelle d'avoir Montand pour interprète. J'ai eu la chance de l'avoir encore une fois pour interprète avec une chanson, je ne sais pas si vous connaissez Grégoire. Il attendait son carrosse. Ah ben, je ne vous ai jamais entendu chanter, Grégoire. Allez-y. Enfin, il en a chanté beaucoup. Mais enfin,
ce que je regrette, c'est que Montand ne chante plus maintenant. Il faudrait lui refaire des chansons. Peut-être qu'il attend ça.
Oui, on va recommencer. Il y a tous les... J'allais dire tous les ans, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y a un moment aussi où on découvre une voix, une façon de chanter.
Ah, je devine.
Sentimentale, oui. Et j'ai eu ce petit choc avec une jeune Canadienne, Fabienne Thibault.
Oui.
Ça m'a tiqué, un petit déclic.
C'est la révélation de l'année.
Oui, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis j'adore la chanson de Michel Berger. Alors,
les uns contre les autres.
Oui, on est d'accord là.
Ça va.
Tout seulement, on dort les uns contre les autres. se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire, mais au bout du camp, on se rend compte qu'on est toujours tout seul.
Mireille, je vais vous raconter quelque chose qui va vous surprendre. Vous ne savez pas.
Une farce, vous allez me
non,
faire.
Non, pas du tout. C'est que Fabienne Thibault, elle a vu l'autre jour à la télévision un de vos élèves, Simon, un Hollandais, je crois.
Oui.
Qui chantait une chanson de vous qui s'appelle « Tout seul ». Une chanson que j'aime beaucoup sur la solitude, donc. Et elle a trouvé cette chanson formidable et elle a décidé de l'enregistrer.
Grégoire, les auditeurs de Radio Andorre... qui ouais. sont avec nous.
C'est un scoop.
C'est un scoop, mais ils peuvent pas voir que j'ai envie de vous sauter au cou et de vous embrasser. Rien au monde ne pouvait me faire plus plaisir que d'avoir une chanson chantée par Fabienne.
Ah oui, c'est beau, c'est.
Puis que ça passe à travers un élève, ouais. un autre.
Ouais. Ah, voilà. C'est comme ça que sont les choses souvent. Hein.
Formidable. Fabienne Thibault, c'est quand même Michel Berger. Michel Berger, c'est quand même France Gall. Et moi, j'ai envie d'avoir Ça balance par eux.
Ça balance par eux.
Pas un Memphis.
J'suis de Paris.
Pas de Paris.
J'ai jamais connu Cap Calloway.
J'ai jamais rien produit sur Broadway.
J'connais pas si.
Pas Albany.
J'suis pas Yankee.
T'es un Titi.
Moi j'suis pas pour les cocoricos.
Mais y'a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi.
Je veux faire un show.
Je demande pas mieux.
Mais du nouveau.
C'est tout ce que je veux.
Mais je veux pas copier Ginger Rogers.
Pourquoi toujours America First?
West Side Story.
C'est bien fini.
Les parapluies.
C'était joli.
Mais je veux faire quelque chose à moi.
Faudra travailler, mais pourquoi pas? Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Les claquettes c'est plus de notre époque. La métro Goldwyn-Mayer, c'est plus la meilleure. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance aussi.
Mes copains. Il y a un élève, je vous ai dit tout à fait au début, que le premier... Vous savez, le petit conservatoire, ce n'est pas une idée de moi. D'abord, je n'ai pas d'idée.
Comment, jamais. Ce n'est pas vous qui l'avez créé?
Non, non.
Créé,
enfin, je veux si, dire. si, mais ce n'est pas une idée de moi. Je n'ai pas d'idée, mais je crois que consciencieusement, et je fais exactement ce qu'on pense ou ce qu'on attend de moi. Alors, quand j'ai confiance, boum, je fonce. Et j'avais confiance en Sacha Guitry. Je vous l'ai dit au début, et quand j'avais la panique, la panne, j'allais le trouver et je lui disais, c'est affreux, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanche, je peux plus voir ces sept notes. Et surtout quand je pense à tout ce qui a été composé, fait. Et il me regardait en riant, en me disant, mais que ça peut vous faire puisque vous ne vous servez pas de ces notes comme les autres gens. Bon, alors je partais gonflé comme Popeye après le spinach. Et c'est lui qui, un peu avant sa mort, avait écrit que je devais essayer de faire un petit conservatoire de la chanson. Alors, pour faire un petit conservatoire de la chanson, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, mais du moment qu'il le pensait, il fallait essayer, il fallait tenter. Je suis allée trouver le directeur de la radio à ce moment-là, qui était Paul Gilson, un poète, et je lui ai dit, ben voilà, je voudrais essayer ça. Pour ça, il me faut des bancs, pour le cas où il viendrait quelqu'un, pour qu'il puisse s'asseoir, un piano, et puis alors un micro, et puis un endroit, un local. Alors, il m'a envoyé à la recherche. Ça s'appelait France 4, c'était Jean Tardieu qui en était directeur. Et puis, j'avais un local. Mais j'avais très peur, parce que je me disais, mais qui va venir? Qu'est-ce qu'ils vont me demander? Qu'est-ce que je vais répondre? Ça va être atroce. Qu'est-ce que je fais là? Et puis, on avait fait un communiqué sur ce France 4. Tous les jeunes qui veulent être écoutés par Mireille. Le premier qui est venu, qui s'est assis sur le banc, qui n'osait pas parler, c'était Richet Barrier. Et c'était drôle, parce qu'il m'a tout de suite dit, ça fait rien, madame, si je vous ai piqué trois notes dans les trois gendarmes. Au contraire, quel honneur pour moi. Et c'était la première chanson de Richet Barrier.
C'est moi la servante du château. Je remplis les vases et je vide les siots. Je manie le balai et puis le torchon, je fais la potée pour les cochons et puis la soupe pour les patrons. J'ai pas deux pieds dans le même sabot, j'ai de la vaillance plus qu'il en faut. Ici, qui c'est qui fait le boulot? C'est moi. La baronne, c'est un mijauré qui est pas capable de surveiller. C'est moi qui dirige la maison. Je compte les bouteilles et les chapons et puis les liquettes du baron. Faut avoir, comme dit monsieur le maire, un œil au balai, l'autre au cimetière. Qui c'est qui sume mon hiver? C'est moi. Faudrait pas croire que je sois les drons. Les gars me courent au cotillon. S'ils ne gardent pas les mains dans leur poche, moi je te leur refile une taloche. Même le baron quand il s'approche, je le chasse à grands coups de plumeau. J'ai de la vertu plus qu'il n'en faut. Qui sera la rosière du hameau? C'est moi. Quand mademoiselle dans le potager fait la causette à son fiancé, aussitôt je quitte mon torchon pour surveiller un peu ce qu'ils font. Je sais qu'il a de bonnes façons, mais comme disait monsieur notre curé, chauffe un moron, ça le fait péter. Qui c'est qu'a de la moralité? C'est moi. Au noce, j'ai dit à mademoiselle, fleur d'oranger craint pour la grêle. L'évêque est venu bénir la fête, mais comme le bedeau était pompette, et moi qu'a porté les burettes. Soir, quand les épouses sont retirées, j'avais de la peine à les quitter. C'est qui les a bordés? C'est moi. Pour me consoler, j'étais trinqué avec Nicolas le riche meunier. On a dansé sous les lampions. Le v'là qui tripote mon jupon pour voir si c'est pas du coton. Moi je le laisse faire, je pense au moulin. C'est quand il gèle qu'on cueille les coins. Qui corra l'homme, qui corra le grain? C'est moi. Je serai pas rosière, mais je serai patronne et je me mettrai un chapeau pour faire visite à la baronne. Changement d'herbage, je réjouis-les-vous, qui sera l'invité du château? C'est moi.
Donc c'était Richet Barrier, un de vos élèves, mais moi je voudrais raconter, dire quelque chose qui m'émerveille, c'est que ça fait donc 25 ans cette année, le petit conservatoire.
Oui, c'est la 25e année.
Et quelque chose que personne ne sait, c'est que ça fait 25 ans que vous donnez vous suivez vos élèves et gratuitement. C'est-à-dire que
normal,
on vient au petit conservatoire, on s'assoit, on rencontre des gens et que vous donnez votre temps et c'est merveilleux. Voilà.
C'est merveilleux pour moi. Vous savez, ça n'existe que parce qu'ils le souhaitent. Parce qu'ils veulent, ce sont eux qui me soutiennent. Ouais. C'est drôle, j'ai l'impression d'ailleurs, maintenant ça fait 25 ans, d'avoir les mêmes qu'il y a 25 ans. comme si c'était leur enfant. Ils ont le même comportement avec moi. C'est très extraordinaire.
Ils sont fidèles en plus, quand même.
Ah, je n'ai jamais été dans l'embarras jusqu'à maintenant sans qu'ils répondent.
Ils sont toujours répondent, de vous, comme Françoise, comme beaucoup.
Ils répondent toujours présents. Ouais, ouais. Oui, c'est pour ça que ça existe. C'est un endroit aussi assez extraordinaire parce que je pense que c'est, j'allais dire, presque le seul au monde. C'est pas du tout dans le sens prétentieux, mais c'est le seul endroit où ils se rencontrent.
Oui, ça, oui.
J'ai eu lundi dernier à l'audition un Japonais qui est arrivé. Et je lui ai dit, mais comment connaissez-vous le conservatoire? Il n'y a pas de pub, il n'y a rien, personne ne connaît même l'adresse. C'est archi plein.
8 rue Bertin Poiré à Paris.
Non, mais ils sont tous par terre, on n'a pas de place. Enfin, c'est assez extraordinaire. Il m'a dit qu'au Japon, quelqu'un de l'Alliance française lui avait dit qu'il était venu par le Canada en passant par l'Italie. Enfin, voilà.
Ouais,
alors, il y a de tous les pays du monde. Oui, c'est assez magique. Et puis, ils se parlent, ils ont les mêmes problèmes, ils se rencontrent. Madame, j'ai fait des paroles, mais j'ai pas de musique. Bon, celui-là fera la musique. Madame, j'ai une musique, mais j'ai pas de paroles. Bon, celui-là peut faire les paroles. Madame, la chanson est finie, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il y a celle-ci qui pourrait la chanter.
Mais c'est avant tout un lieu de rencontre.
C'est surtout ça.
Ouais.
J'ai une jeune élève américaine qui vient du Missouri. Alors, elle, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, boum, je le sais par elle. Et elle m'a dit, il faut absolument, elle m'a apporté un disque, écoutez, Randy Newman. Ça vous plaira, madame, a-t-elle dit. Ça s'appelle Lynn.
Donc, c'était Short People par Randy Newman.
Voilà, j'ai dansé, vous aussi,
ouais,
Grégoire.
Ouais, ouais, ouais.
J'espère que tous les auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Andorre ont aussi balancé avec leur rythme. C'est très impressionnant quand c'est à ce point, en mesure, rythmé. Même quand on n'y est pas sensible, on est obligé de remuer les pieds.
Puis encore un
pianiste.
Faire
les battements.
Puis il y a beaucoup de pianos, là, encore.
Bah, ça, j'aime, vous savez bien.
Ouais.
Il y a, puisqu'on parlait du petit conservatoire tout à l'heure, il y a une fille qui était venue auditionner il y a quelques années avec son frère et sa sœur. Alors ça faisait un joyeux trio, mais pas terrible à entendre. Pourtant, une des filles avait une voix d'orgue extraordinaire. Alors j'ai dit, c'est, laissez votre frère et votre sœur, ils sont très gentils, essayez-le toute seule. Et c'était très difficile pour elle, parce que quand on arrive, quand la mode est au yéyé, faire son chemin au travers, c'est très difficile. Cette fille s'appelle Frida Bocara. Ah, oui. La voix est vraiment jolie.
Ah, oui.
Souvent, on me demande... Coucou.
Oui.
Bonjour, Artie.
Vous allez bien?
C'est gentil de venir me tenir
j'ai
compagnie.
J'ai remplacé Grégoire, il avait un rendez-vous urgent. Sa voiture était en double fil.
C'est gentil. On me demande souvent ce qu'on apprend au petit conservatoire. On n'apprend rien. On n'apprend d'abord jamais rien à personne. Mais on a des discussions. Ça se passe beaucoup en parole. Et quelquefois, il y a des phénomènes. Par exemple, il y avait un garçon avec une très jolie voix que j'avais entendu à une audition. Et puis après, j'ai plus jamais retrouvé la voix. Alors, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il était lapidaire.
Lapidaire.
Lapidaire. Et j'ai eu une petite idée.
C'est très mystérieux, ça, lapidaire.
lapidaire qui s'occupe des pierres, qui taille les pierres précieuses, qui leur donne une forme.
Ouais.
Et je lui ai demandé combien il mesurait. Il est devenu tout rouge. Mais j'ai été aidée, j'ai été inspirée par un lutin. Je lui ai dit, telle taille ? Mais c'est formidable, vous avez la taille de Napoléon. Et dans la voix, vous avez un petit éclat de diamant. À partir de ce moment-là, boum, j'ai retrouvé la, complètement la, la voix. Il y a une grande part de, quand même de psychologie. Hein. Tout le temps, la psychanalyse, ça y va. Hein.
Mais dès lors qu'on est chargé de guider des gens.
Ce qui est important, c'est de leur faire parler. Il y avait une limite d'âge au petit conservatoire. Et puis, un jour est arrivée une personne très forte, d'une énorme corpulence.
Ouais.
Et dans la cabine, j'écoutais la première fois dans une cabine. Et on m'a dit, mais c'est pas la peine, madame, d'écouter cette personne. Comment elle s'est dérangée pour moi, je veux l'écouter. Comment vous appelez-vous ? Lui ai-je demandé, comme je le fais. Colette Magny. Ah, et je voudrais vous écouter, puisque vous êtes venue. Et alors, elle avait les larmes aux yeux, elle m'a dit, c'est la première fois qu'on veut bien m'écouter, qu'on daigne m'écouter. C'est extraordinaire, non ? Et c'est parti de là. Alors, je ne fais pas un palmarès du petit conservatoire, mais il est tellement passé de gens extraordinaires à qui j'ai pu, pas donner un coup de pouce, mais simplement écouter, détecter un tout petit peu plus vite. Il y a un petit jeune qui est assez gentil là en ce moment, qui s'appelle Philippe Châtel. C'est gentil les chansons qu'il fait, c'est assez charmant.
Oui, sont tendres.
Un sourire nature, par des cheveux châtains bouclés, des yeux mobiles qui respiraient l'air pur, où les tiens venaient s'oublier, et l'élégance un peu fragile, facile, du dernier des docteurs Jekyll. Tu ne savais pas, pauvre de toi, qu'il y a du Mr. Hyde en moi. Tu ne savais pas, pauvre de toi, qu'il y a du Mr. Hyde en moi. Hyde en moi, Hyde pour toi. Hyde en moi, Hyde pour toi. Mais va pas voir dans mes délires soupirs le goût de dire du mal de moi. T'es mon miroir, ma glace à réfléchir. Je te dis ce que tu sais déjà. Une analyse un peu docile, facile, inspirée du docteur Jekyll. Même si tu crois, pauvre de toi, qu'il y a du Mr. Hyde en moi, faut que tu aimes tout chez moi, même le Mr. Hyde en moi.
Hyde en moi, Hyde pour toi.
Séduit par un sourire nature, par des cheveux blonds et tout droits, des yeux mobiles qui respiraient l'air pur, que les miens n'abandonnaient pas. Le charme flou de la jeune fille fragile, fiancée du docteur Jekyll. Je ne savais pas, pauvre de moi, qu'il y a du Mrs. Hyde en toi. Je ne savais pas, pauvre de moi, qu'il y a du Mrs. Hyde en toi.
Hyde en toi, Hyde pour moi. Hyde en toi, Hyde pour moi. Dans les moments parfois mélancoliques, où l'on se laisse aller au mal, on se disait des méchancetés classiques, coups de sabot de mauvais cheval.
C'était fini l'esprit facile, tranquille, de monsieur et madame Jekyll. Tu ne savais pas, pauvre de toi, qu'il y a du Mr. Hyde en moi. Je ne savais pas, pauvre de moi,
qu'il y a du Mrs. Aïe dans toi.
Aïe dans toi, aïe pour moi. Aïe dans toi, aïe pour moi.
Moi, j'étais très contente de passer ce dimanche après-midi.
Ça vous a fait plaisir. Quel effet ça fait d'être animatrice de radio?
Ah ben, quand on est animatrice de Radio Andorre et qu'on a ses auditeurs avec soi, à l'écoute, c'est tout à fait agréable.
Oui. Vous avez déjà tenté ce genre d'expérience?
Non.
Je sais que vous avez fait de la radio, vous en faisiez.
Oui, j'en ai fait un petit peu.
Tous les samedis après-midi, l'opérette de Katsu.
Oh, j'en avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai. Je crois que je voudrais simplement maintenant dire au revoir. Et merci.
C'est Radio Andorre qui vous remercie, Mireille, d'être venue passer ce dimanche après-midi en la compagnie de ses auditeurs qui ont été les vôtres, qui resteront les vôtres. Je sais que vous écrivez un bouquin, vous en avez parlé tout à l'heure avec Grégoire. Ça sortira quand?
Oh, je ne sais pas, l'année prochaine, je pense. Ouais. Enfin,
eh bien, on en reparlera prochaine. À ce moment-là.
Merci.
Et puis, puisque ce sont vos auditeurs et que c'était votre émission, ben, c'est à vous de conclure.
Je voudrais simplement, encore une fois, remercier pour la bonne l'après-midi. Est-ce qu'on dit la ou le bon après-midi?
Je crois que l'un et l'autre se dit ou se disent.
J'ai changé mon piano d'épaule du bon ou du mauvais côté, de la crinoline au blue jean. Simplement, le temps a passé. Suis-je la même ou une autre personne? On a l'âge que les autres vous donnent. J'ai changé mon piano d'épaule sans le vouloir, sans y penser. Je ne joue plus le même rôle. Mais l'important, c'est de jouer. Suis-je la même ou une autre personne? On a l'âge que les autres vous donnent. J'ai changé mon piano d'épaule. Si Ravel vivait aujourd'hui, sans doute irait-il à Nashville et Mermoz à Cap Kennedy. Suis-je la même ou une autre personne? On a l'âge que les autres vous donnent. J'ai changé mon piano d'épaule, mon piano lui-même a changé. Il n'y a plus de musicaux, mais la musique, elle est restée. Suis-je la même ou une autre personne? On a l'âge que les autres vous donnent.
Emisora del Principado de Andorra.